Gloire au Seigneur. Nous sommes heureux d'être encore ensemble ce soir. Toujours un privilège immense pour nous de nous approcher du Seigneur au travers de sa parole et puis de partager quelques pensées qu'il place sur notre cœur. Et je dois dire qu'en priant pour ces moments, il y a quelque chose qui allait dans le sens de ce qui a été partagé par notre frère. D'être encouragé, je crois, encore ce soir à considérer que Jésus est tout notre bien. Et que nous avons encore besoin, peut-être, quelles que soient même, je dirais, nos années de conversion, toutes les expériences que nous avons pu faire, peut-être d'être renouvelés, en tout cas d'être fortifiés. Et je bénis le Seigneur pour ces quelques chants, en tout cas, qui ont déjà contribué à préparer notre âme dans ce sens. Qui que nous soyons chrétiens ou que nous ne le soyons pas d'ailleurs, nous devons tous nous soucier de notre âme. Il est certain que, pour le commun des mortels, ils ignorent même qu'ils ont une âme, alors encore plus se soucier d'elle. Et pour nous-mêmes, avant de connaître le Seigneur, c'est lorsque nous avons donné notre cœur au Seigneur que nous avons pu prendre conscience, notamment au travers de la parole, que non seulement nous avions une âme, mais qu'elle avait besoin d'être restaurée par le Seigneur, et que jour après jour, nous avions besoin continuellement de rester attentif à la voix du Seigneur, justement, pour que nous soyons renouvelés jour après jour. Notre âme, elle existe. Ce soir, je ne ferai pas de distinction, c'est dans la parole de Dieu. L'âme est aussi considérée un petit peu comme l'esprit dans certains passages. C'est peut-être un petit peu flou, mais ça ne fait rien, on va rester quand même dans ce flou, parce que ce n'est pas le thème de notre message ce soir. L'âme, un peu l'esprit, le cœur, en tout cas pour nous ce soir, l'âme comme le siège de nos sentiments, le siège de nos émotions, en tout cas cette interface, je dirais, on va l'appeler comme ça ce soir, entre notre esprit et notre corps humain, avec toutes les interférences que nous pouvons vivre dans notre vie. Notre frère parlait de certaines situations qui pouvaient être difficiles, on peut être rentré dans ce lieu avec des fardeaux, avec des soucis. On va essayer aujourd'hui, ce soir, de se préoccuper de notre âme. Elle existe. Non seulement elle existe, notre âme, mais elle doit recevoir, elle doit avoir les soins nécessaires pour son bon équilibre. Et pour beaucoup, malheureusement, je parlais de tous ceux qui sont à l'extérieur, tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, bien sûr, mais malheureusement, parfois, parmi les chrétiens, et nous verrons aussi combien dans la parole, des hommes de Dieu aussi ont vu leur âme affligée. Parfois, notre âme, elle est en mauvais état. Et on pourrait peut-être réaliser ce soir combien parfois notre âme, elle est source de beaucoup de souffrance, et que la parole de Dieu nous aide ce soir à peut-être examiner, faire peut-être un petit peu le point sur l'état de notre âme. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais nous avons chanté. Alors moi, je n'ai pas pu trop chanter parce que j'avais la trompette, alors c'est facile pour moi. Notre âme, elle est contente. On a chanté « Notre âme est contente ». Et le souhait, en tout cas, le vœu de mon cœur, c'est que peut-être, après ce moment que nous passons ensemble, en tout cas, quand vous sortirez de ce lieu, vous puissiez réaliser vraiment si votre âme, elle est contente, réellement, si elle est heureuse, si elle est épanouie en Christ, parce que je crois que c'est ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Pour l'Éternel, l'état de notre âme, c'est quelque chose qui est important. C'est pour ça que l'Éternel a dit au peuple d'Israël, « Veille attentivement à ton âme, tout les jours de ta vie. Veille attentivement à ton âme tous les jours de ta vie » dans le livre du Deutéronome au chapitre 4 et le verset 9. Et nous avons besoin, chacun d'entre nous, et je crois que plus nous avançons avec le Seigneur, plus nous le réalisons, nous avons tous besoin de vivre cette dépendance avec notre Seigneur, comme d'ailleurs le faisait David qui connaissait Dieu, comme le Dieu qui restaure notre âme. Ce sera le titre de notre message ce soir, « Dieu restaure notre âme ». Ça vous fait penser certainement à un verset qui a été un peu le départ de ce thème ce soir, c'est dans le psaume 23, on va le relire ensemble quand même. Psaume 23, peut-être quelqu'un ne l'a jamais lu, peut-être quelqu'un l'a déjà lu, peut-être quelqu'un connaît en tout cas le thème de ce psaume, mais ce qui est important pour nous, c'est de réaliser, et notamment un point particulier, le psaume 23, un cantique de David, très connu. Très connu aussi certainement parce qu'il est très important pour nous. Psaume 23, verset 1er, cantique de David, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es... avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent, tu tresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. » Et l'accent ce soir pour nous, c'est le verset 3. David connaissait cette intimité avec le Seigneur et connaissait cette nécessité de dépendance que nous devons avoir avec notre Seigneur comme celui qui restaure notre âme. Notre âme a pu être peut-être guérie, soignée un temps, mais jour après jour, de la même manière que nous prenons soin de notre corps physique, nous avons besoin de prendre soin de notre âme. Et posons-nous peut-être la question honnêtement devant le Seigneur dans notre cœur, quel est l'état de notre âme ? Parfois notre âme, elle est triste. Parfois, notre âme, elle est troublée. Parfois, notre âme, elle va même jusqu'à être angoissée. Notre âme, parfois, elle peut être remplie d'amertume. Ou alors, elle peut être contente, comme nous l'avons chanté. Notre âme, elle peut être en pleine prospérité aussi. C'est d'ailleurs ce témoignage que donnera Jean de Gaius. Jean rendra ce témoignage. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme », dans 3 Jean, chapitre 1er et le verset 2. Et je vous le souhaite et je voudrais que ce message nous aide en tout cas à vivre cette prospérité de notre âme. C'est important, c'est indispensable pour nous. C'est peut-être, vous savez, notre vie, elle n'est pas tout à fait linéaire. Et vous savez, quand on regarde un petit peu en arrière, on voit que quand même il y a pas mal de tumultes des fois, des troubles. Et peut-être que aujourd'hui, votre âme, elle est en paix, elle est heureuse, épanouie, vraiment contente comme nous l'avons chanté. Mais peut-être ce message peut vous aider, on en reparlera plus tard, mais à considérer aussi dans quel état peut être notre frère, notre sœur, ou peut-être dans quel état je serai dans quelques jours, dans quelques mois, de prendre conscience que nous avons besoin de veiller sur notre âme. Malheureusement, souvent, nous sommes obligés de constater que notre âme, eh bien, elle ressemble à ceci-là. Beaucoup de tristesse, beaucoup d'angoisse. Et même les croyants, même les chrétiens authentiques peuvent être affectés. Et c'est un petit peu aussi, je pense, ce qui a amené à méditer ces pensées à une forme de dépression. Vous savez, c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas osé trop partager à une certaine époque. Mais je crois qu'avec honnêteté, nous devons connaître parfois, par rapport à certaines situations, peut-être par rapport même des fois à des mécanismes que nous ne maîtrisons pas vraiment, nous pouvons entrer dans une forme de dépression, d'une certaine manière, je ne sais pas trop les qualificatifs qu'il faut y donner. En tout cas, nous le voyons dans la parole de Dieu que même des hommes de Dieu sont allés même jusqu'à souhaiter la mort dans des moments d'angoisse terrible. Et je voudrais que nous puissions, au travers de ces textes, aussi avoir beaucoup de compassion pour celui ou celle qui passerait par ces moments de trouble, connaître parfois, malheureusement, une profonde lassitude dans notre âme. On peut lire, par exemple, dans le psaume 42, juste un petit peu plus loin, je disais que parfois des hommes et des femmes qui ont été engagés dans l'œuvre de Dieu peuvent connaître ces choses-là. Et nous avons là un homme qui a été engagé, même dans la louange, qui a été quelqu'un qui a connu la grâce de Dieu et qui, à un certain moment donné de sa vie, dans le psaume, on peut lire peut-être le psaume 42, on va lire. « Au chef des chants, cantique des fils de Corée, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme, elle a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, et pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu ? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et quand je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. » Verset 6. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Verset 7. « Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitzéar. Verset 8, un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sur l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Verset 12, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Amen. La foi est là quand même dans le cœur de cet homme, et j'aime ces derniers versets qui sont là. Espère en Dieu. Oui, heureusement que notre espérance, même dans le plus profond de nos angoisses et de nos soupirs que peut-être personne ne peut comprendre, en tout cas dans un abattement important de notre âme, la foi, l'espérance dans les promesses que Dieu a placées sur notre vie peuvent nous donner la force, en tout cas, de réaliser que l'Éternel, notre Dieu, c'est le divin restaurateur de notre âme. Et c'est certainement là le secret pour notre vie. Je pense que des fois, on a du mal à se comprendre un petit peu les uns les autres. Il faut être honnête avec cela, justement parce que nous passons par des moments difficiles. Le deuil, c'est quelque chose de difficile à vivre. Le deuil de quelqu'un de proche, il faut au moins, j'allais dire, être passé par des mêmes circonstances pour un peu comprendre les autres. Et nous avons besoin d'être des hommes et des femmes compatissants. Parfois, la détresse est si immense que l'on peut déclarer ceci, « Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte, je parlerai dans l'amertume de mon âme. » C'est Job qui a dit ça. Quand on connaît le passage de Job, sa vie, Job chapitre 10, verset 1er. Même le Seigneur Jésus, a connu une profonde tristesse lorsque, vous savez, dans le jardin de Gethsémané, il a demandé aux disciples de veiller quelque temps. Il leur dit alors, « Mon âme, elle est triste jusqu'à la mort. » Et il encourage les disciples à veiller et à prier. Nous devons savoir, et c'est important, que si l'ennemi de nos âmes profite de ces états de faiblesse pour enlever le tout petit peu de courage que parfois il nous reste, nous devons ne jamais oublier que Dieu, lui, au contraire, utilise peut-être ce tout petit peu, ce restant de vie, de courage qu'il nous reste, pour faire en nous une œuvre de restauration. Personne ne pourrait dire ce soir, pour moi, c'est fini, je n'en peux plus. La Bible dit ceci, c'est le Seigneur Jésus d'ailleurs qui le déclare, « Il ne brisera pas le roseau qui se ploie. Il n'éteindra pas la lampe dont la mèche fume encore dans Matthieu, chapitre 12 et le verset 20. » Et nous voulons être encouragés, comme je disais tout à l'heure, à la suite de ces chants et de ces cantiques, de réaliser que en Jésus et en Jésus seul, nous pouvons puiser les uns et les autres. Et je sais que si on avait le temps, on pourrait partager beaucoup de témoignages dans chacune de vos vies que le Seigneur a pu restaurer notre âme. Je crois qu'il le fait encore pour nous ce soir, comme cela a été rappelé aussi par notre frère. C'est aussi dépendant de notre volonté que nous devons aussi permettre au Seigneur d'agir dans notre cœur et dans notre vie. C'est tout le thème de la foi. Nous pouvons entendre, nous pouvons comprendre la parole de Dieu, mais pour que Dieu puisse faire cette œuvre de restauration, de surtout pouvoir la saisir et de lui dire ce soir, par la foi, « Oui, je crois, j'ai besoin de toi. » Dieu restaure notre âme. Ça, c'était l'introduction. Le premier point que je voudrais partager avec vous très rapidement, c'est voir différentes causes d'une âme qui est blessée. Il y a différentes causes, il y en a d'autres, mais j'en ai retenu quelques-unes. Alors, la première qui va être évidente, et dont tous les hommes qui, selon la parole de Dieu, sont pécheurs, souffrent jusqu'à ce qu'ils reçoivent la libération en Jésus-Christ, eh bien la première de ces causes, c'est bien sûr le péché. Nous en parlons peu, mais le péché, c'est une offense envers Dieu. Quand nous le réalisons, nous réalisons que nous avons offensé Dieu. Parfois, le péché occasionne aussi le fait d'offenser notre prochain, mais nous minimisons trop aussi les dégâts que le péché occasionne sur notre propre âme et les dégâts qu'ils sont faits au plus profond de nos vies. Il y a un proverbe qui dit ceci, « Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. » Celui qui pêche contre moi nuit à son âme, le proverbe 8 et le verset 36. Un homme, malheureusement, l'a expérimenté. On va lire juste un passage. Un homme qui a été pourtant choisi par Dieu, qui a désobéi volontairement. Cet homme, c'est Jonas, et il a vu par sa désobéissance son péché, son âme blessée. On pourrait regarder juste quelques versets dans Jonas au chapitre 2, s'il vous plaît, verset 6. Alors juste quelques versets lorsque Jonas dans le ventre du poisson va avoir ce bon réflexe, on en reparlera plusieurs fois ce soir, de crier à Dieu. Verset 6, « Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Amen. » Cet homme qui avait reçu un ordre de l'éternel, un ordre qu'il avait bien compris, et qui a choisi, pour des raisons qu'on ne va pas développer ce soir, de partir dans la direction opposée à ce que le Seigneur avait prévu pour sa vie. Cet homme a désobéi, il a péché, et son âme s'en est retrouvée profondément abattue. Et nous verrons plusieurs exemples, et il est bon de le noter aussi dans celui-là, c'est ce réflexe très positif en tout cas, parce que quand son âme a été abattue, dans le désespoir le plus complet, peut-être a-t-il pensé aussi à la préférence à la mort, qui sait dans ces circonstances, il a crié à Dieu. Et c'est ce que nous devons retenir pour nous ce soir. Que ma prière, elle est parvenue jusqu'à toi. Croire que même si personne autour de nous ne nous comprend ou ne nous entend, Dieu, lui, même le plus profond, le plus éloigné, le plus profond de la mer, Dieu a entendu la prière de Jonas. Alors ça, c'est peut-être une des premières causes où notre âme peut être profondément blessée, c'est bien sûr le péché. Et nous ne le réalisons véritablement que lorsque nous venons à Christ et que nous lui demandons pardon et qu'il nous libère complètement de notre péché, que nous réalisons à ce moment-là le plus combien notre âme était éprouvée, combien notre âme était sous le joug de l'ennemi, combien notre âme, elle était sous le joug du péché et quelle joie, quel bonheur d'en avoir été libérée. Une deuxième cause aussi d'une âme qui est blessée, j'ai parlé de notre péché, de nos offenses, mais il y a aussi le péché du monde qui nous entoure, le péché dans le monde. Lors de ma conversion, j'ai eu honte de quelque chose, une expérience que j'ai faite, et j'ai mis des années à régler un petit peu dans mon esprit cette affaire-là. Non seulement j'ai pu, par la grâce de Dieu, pleurer sur mon propre péché, réaliser combien le Seigneur était mort à la croix du calvaire pour moi, pour ma vie, pour mes iniquités, combien j'étais sale devant lui, et recevoir de lui cette purification. Non seulement j'ai expérimenté ces choses-là, mais dans un même temps, un petit peu après, mais c'est pratiquement dans un même temps, j'ai été beaucoup affligé dans mon cœur par les péchés du monde. Et cela a troublé mon âme, parce que je me disais, t'es quand même un petit peu gonflé de t'apitoyer sur le péché des autres. J'ai mis des années, et c'est quelque chose qui me paraît plus évident aujourd'hui, nous pouvons être très affectés dans le péché qui nous entoure. Et je voudrais lire un texte avec vous, dans 2 Pierre, s'il vous plaît, au chapitre 2. Je voudrais lire ce texte parce que c'est une pensée qui était forte sur mon cœur, et peut-être c'est important que l'on insiste sur cette dimension. 2 Pierre chapitre 2, alors on ne lit pas forcément le contexte, juste les versets qui nous concernent. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Il tourmentait journellement son âme, et je crois que nous devons faire attention, mes frères et sœurs, pour nous chrétiens, car dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il y a de quoi tourmenter notre âme aussi. Il y a beaucoup de choses. Je dis pas, on ne peut même pas dire que notre société va dans des c'est diamétralement opposé les voies et les chemins qui ont été décidés et choisis par nos dirigeants. Tout est contraire à la morale que Dieu a voulu nous enseigner. Et il est presque inévitable, mes frères et sœurs, que nous soyons affligés, que nous soyons aussi tourmentés dans notre cœur par tout ce que nous sommes amenés à voir et à entendre, alors que nous voulons vivre dans la sainteté, nous voulons vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu, et nous devons veiller à cela. Voilà une des causes, en tout cas, où nous voyons dans la parole de Dieu une cause dans laquelle nous pouvons aussi avoir notre âme qui est blessée. Une autre cause, je passe rapidement, mais je pense que ça fait trop de dégâts dans la vie même des croyants que je ne peux pas le passer sous silence, c'est bien sûr l'amertume. Que de désastres dans les vies, dans les familles, dans les foyers. C'est un véritable piège, l'amertume. Une véritable prison lorsqu'on s'enferme là-dedans. Et c'est vrai que dans notre quotidien, il y a parfois des personnes autour de nous, elles sont difficiles. Et c'est vrai, parfois, elles nous poussent à bout. Et il y a de quoi laisser rentrer dans notre cœur parfois des choses insidieuses. Et je donnerai juste le témoignage de Anne que nous trouvons dans le chapitre, le premier chapitre de 1 Samuel, ne le cherchez pas. Mais je vous dis juste ces quelques versets. Il est écrit ceci, « Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. » Et il est dit plus loin, « Et l'amertume dans l'âme, l'amertume dans l'âme. » Combien, vous voyez, le siège de nos émotions, de nos sentiments peuvent être ébranlés au plus profond de nous. L'amertume dans l'âme, par contre, ça, il y a le côté positif, on en reparlera après. Elle pria l'Éternel. Et ça, c'est notre encouragement pour nous ce soir. Quel que soit l'état de notre âme, peut-être les pièges dans lesquels nous sommes tombés, soyons honnêtes avec le Seigneur. En tout cas, nous pouvons saisir par la foi ces bénédictions. Croyons-le, mes frères et sœurs, mes amis qui êtes là ce soir, Dieu est celui qui restaure notre âme. Il y a aussi une autre cause pour laquelle notre âme peut être blessée, malheureusement, là aussi, c'est un sujet trop commun dans la vie du chrétien. Ça a été rappelé un petit peu dimanche matin, c'est les épreuves. Ah, les épreuves. Juste, je vous lis un verset des Écritures. « Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme ? Et chaque jour des chagrins dans mon cœur ? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ?» Dans le psaume 13, le verset 3. Et ces épreuves que nous pouvons vivre dans notre vie, c'est vraiment parfois des épreuves qui sont là, qui nous terrassent véritablement. Et alors c'est peut-être un peu facile, peut-être parfois de parler de l'épreuve une fois qu'on en est sorti. Mais je peux vous assurer que quand vous êtes au milieu de l'épreuve, il y a quelque chose qui est très angoissant. C'est que vous ne savez pas à quel moment ça va s'arrêter. Et même si peut-être ça vous dira quelque chose, on a l'impression même de vivre des séries noires, parce qu'on est dans un tel état. Il y a aussi une façon un peu négative de voir plus les choses, l'impression que les choses s'enchaînent. Et il n'y a rien de plus angoissant que ne pas voir, dans ces moments-là, le bout du tunnel. Ces épreuves, elles peuvent amener à de véritables angoisses. Le psalmiste dira ceci, « Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie. » Car tu vois ma misère et tu sais les angoisses de mon âme. Et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi, tu mettras mes pieds au large. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Usés par le chagrin. Psaume 31, versets 8 à 10. Là aussi, des encouragements des hommes qui ont connu la grâce et qui ont cette confiance en Dieu. C'est pour cela que je dis que n'ayons pas peur de mettre des mots parfois sur ce que nous pouvons vivre. Il y a autour de nous peut-être des frères et sœurs qui passent par des moments d'angoisse. Vous savez, au travers de la maladie, il y a beaucoup de remises en question aussi dans notre vie. J'allais dire, nous sommes humains aussi. Et nous avons besoin de réaliser que notre âme, elle a besoin de restauration. Vous savez, Joseph a connu une épreuve, c'est une épreuve terrible quand on voit tout ce que Joseph a traversé. Et plus tard, quand ses frères vont réaliser un petit peu ce qu'ils ont fait, ils témoignent de ceci, ils se dirent alors l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme. Nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons point. » Écoutez, Genèse 42, verset 21, il y a tellement de situations dans notre vie et dans tout ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. Et je le redis parce que, vous savez, on vit dans ce monde et Dieu permet que nous y soyons parce que nous devons être des témoins. C'est vrai que parfois, lorsque on aimerait rester, vous voyez, dans ce lieu entre nous, et on voudrait vivre comme ça. Mais ce n'est pas voulu forcément par le plan et le projet de Dieu pour nous dans notre vie. Nous devons être des témoins dans ce monde. Il nous envoie comme lui-même a été envoyé dans ce monde. Et c'est difficile. Nous savons que les temps n'iront pas s'arrangeant. Nous avons besoin de veiller à notre âme, à tout ce qui peut l'offenser, lui faire du mal, de l'amertume, des péchés, des épreuves. Tout cela fragilise l'état de notre âme. Alors je voudrais venir dans ce deuxième point et réaliser que s'il y a plusieurs causes qui peuvent blesser notre âme, il y a surtout aussi, c'est le deuxième point, Jésus-Christ qui est le divin restaurateur de nos âmes. Vous savez, là où le diable, là où l'ennemi de nos âmes est spécialiste dans la démolition et dans la destruction, je tiens à vous dire que le Seigneur est spécialiste dans la restauration. Alléluia. Regardez ce verset avec moi dans Jean au chapitre 10, verset 10. Les paroles mêmes du Seigneur Jésus, vous savez, quand il se présente comme ce bon berger. Jean chapitre 10, verset 10. Il y aurait tant de choses à dire, mais juste ce verset. Le voleur, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis, elles aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Amen. Alléluia. Jésus-Christ, c'est le divin restaurateur de nos âmes. On va lire une parabole ensemble dans Luc au chapitre 10. Luc chapitre 10, au verset 30, juste pour que l'on ait une image. Dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre âme, de ce que Jésus est véritablement celui qui restaure notre âme, non seulement une fois dans notre vie, mais tout au long de notre existence. Vous savez, c'est la parabole dite du bon samaritain. On ne va pas lire le contexte. Ce n'est pas du tout le sujet de ce soir, donc je reste vraiment juste dans la parabole. Je ne prends pas la question avant, la réponse après, parce qu'il y a beaucoup de choses au travers de cette parabole. Mais pour qu'on garde à l'esprit l'image que je voudrais que vous ayez sur votre cœur du Seigneur Jésus, on lit juste à partir du verset 30, Jésus reprit la parole et dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. » Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu l'ayant vu passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Verset 34, il s'approcha, il banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et il prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Amen. Quelle image. Et dans ces quelques versets, nous avons cette image de l'évangile, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, image extraordinaire. Dieu, en la personne de Jésus-Christ, est venu sur la terre des hommes. Il a été rejeté, il a été méprisé, il est représenté ici par ce Samaritain qui était donc des hommes qui étaient haïs par les Juifs. C'est dans ces conditions-là que le Seigneur Jésus est venu apporter le soin à notre âme. Il s'est approché de notre âme mourante. L'image de cet homme qui est laissé pour mort, c'est l'image de notre vie qui est morte spirituellement tant que nous n'avons pas reçu Jésus-Christ. Il s'est approché de notre âme mourante pour la sauver, pour la restaurer, pour la guérir et pour en prendre soin jusqu'à son retour. Quelle bienveillance, notre Dieu. Nous l'avons rappelé au travers de ces cantiques. Tout cela gratuitement. Il a tout payé. Tout ce qu'il aura besoin, je le payerai. Il a payé, cela a été rappelé dimanche, jusqu'à la dernière goutte de sang. C'est ainsi qu'il a pu dire sur la croix du calvaire, tout a été accompli. Belle image de Jésus-Christ, le divin restaurateur de notre âme. Et il est bon, quelle que soit la cause du désarroi de notre âme, de nous abandonner entre ses mains, par la foi, je crois, je reçois, Seigneur Jésus, ce baume dont j'ai besoin dans ma vie. Réaliser avec ce texte que nous venons de lire, que ses mains, elles sont là pour nous soigner. Il a pris avec ses mains, il a soigné. Avec ses mains, il a porté, ses mains qui nous soignent, ses mains qui nous portent, et ses mains qui nous conduisent jour après jour. Il est le restaurateur de notre âme. C'est ainsi que Jésus s'est révélé au peuple d'Israël. Jésus a déclaré lui-même ceci. On pourrait le lire, remarquez, puisque vous êtes dans Luc 10, regardez au chapitre 4 de Luc. J'essaye de ne pas trop vous faire bouger dans les Écritures. Luc chapitre 4, il y a tellement de versets. C'est Jésus lui-même qui s'est présenté ainsi au peuple. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, Luc 4, 18, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. Jésus-Christ, le divin restaurateur de notre âme. Vous savez, les promesses dans la parole de Dieu, dans la Bible, sont nombreuses, où Dieu sans détour, nous affirme qu'il veut restaurer notre âme. L'Éternel, par la bouche du prophète Jérémie, déclare ceci, « Je rafraîchirai l'âme altérée et je rassasirai toute âme languissante. » Croyez-le et surtout saisissez-le par la foi. Vous savez, Jésus est ce bon berger, nous l'avons vu dans Jean 10, mais plusieurs thèmes de la parole de Dieu nous le présentent ainsi. Jésus, en tout cas, se présentait comme ce bon berger qui va au-devant de toutes les âmes languissantes. Selon ces paroles de Dieu, dans la bouche du prophète Ézéchiel, « Je chercherai, j'aime ces versets, je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui est blessée et je fortifierai celle qui est malade. » Amen. Ézéchiel, chapitre 34, verset 16. Oui, je le redis, là où l'ennemi de nos âmes est spécialiste dans la destruction, Dieu est le grand spécialiste de la restauration de notre âme et nous devons le croire et le saisir. Nous avons vu dans un premier temps les différentes causes qu'il pouvait y avoir pour une âme blessée. Nous voyons dans ce deuxième temps que Jésus-Christ, c'est le divin restaurateur, notamment au travers de cette belle image du bon samaritain. Terminons par cette pensée que je veux laisser sur votre cœur. C'est les différents moyens que Dieu va utiliser justement pour restaurer notre âme. Les moyens, ils sont infinis parce que Dieu n'est limité par rien. J'en ai juste retenu quelques-uns. Les moyens que Dieu utilise, c'est sa parole. Et il est dommage que dans beaucoup de situations, et d'ailleurs c'est souvent le témoignage que nous recevons de ceux qui ont, vous savez, qui ont lâché la main petit à petit. Dans leur témoignage, souvent, ils disent à un moment donné, « Je me suis vraiment éloigné de la parole de Dieu. » Et nous devons faire attention, jour après jour, dans notre vie, mois après mois. Ça doit être des signes, vous savez, comme des voyants, des alertes dans notre vie, lorsque nous ne prenons plus goût, envie, la soif de la parole de Dieu. C'est par sa parole que le Seigneur va restaurer notre âme. Il est écrit ceci, « La loi de l'Éternel, elle est parfaite, elle restaure l'âme. » La loi de l'Éternel, elle est parfaite, elle restaure l'âme, dans le psaume 19 et le verset 8. Dit autrement, beaucoup se privent de cette œuvre de cette œuvre de restauration puissante que Dieu a prévue, par négligence, tout simplement, des ordonnances, pardon, que Dieu veut nous communiquer. Ne négligeons pas. Vous savez, la loi de Dieu est souvent vécue comme un joug, alors qu'elle se veut libératrice. Elle est source de vie pour ceux qui la pratiquent, et elle devient ainsi une source de prospérité pour notre âme, par sa parole, moyen de restauration. Deuxième moyen que Dieu utilise, et c'est un petit peu, je vous le laisse juste dans une petite parenthèse, dans un coin de votre cœur, si cela vous intéresse de le méditer, on le voit un petit peu dans la parabole du Samaritain, dans la question avant et dans la réponse après du Seigneur. Dieu utilise aussi notre prochain. Et Dieu veut que nous puissions être utiles dans cette œuvre de restauration autour de nous. J'en reparlerai peut-être après, c'est une grâce qu'il nous fait. Et il est écrit ceci dans la parole de Dieu, « Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi » dans Ésaïe 58, verset 10. C'est le contexte particulier, vous saviez, de l'enseignement sur le jeûne. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, on peut être impliqué par nos attitudes, nos comportements, par tout ce que le Seigneur permettra que nous vivions. Il y a un autre moyen que Dieu va utiliser, c'est aussi notre libéralité. Il y est écrit ceci dans la Bible, « Tel qui donne libéralement devient plus riche, par contre, tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Proverbe 11, 24, verset 20. Versets 24 et verset 25, on les connaissait bien, mais je voulais les rappeler, parce que c'est aussi un moyen par lequel Dieu peut restaurer notre âme, l'attitude que nous avons à l'égard de notre prochain, par notre libéralité. Et j'aurais pu commencer par cet autre moyen, mais je le cite à ce moment-là, c'est bien sûr par le moyen de la prière. Nous l'avons vu, Jonas, il a saisi par la prière la libération qu'il pouvait recevoir. Nous l'avons vu, enfin, je voulais citer rapidement, on va peut-être le lire ensemble dans, regardez, dans 1 Samuel chapitre 1er, ça serait bien qu'on puisse lire ces versets. 1 Samuel chapitre 1er, je vous ai cité tout à l'heure rapidement, c'est ce contexte où Anne a eu de l'amertume jusque dans son âme, mais elle a prié. Et ça, c'est vraiment le moyen de restauration par excellence que le Seigneur nous donne aux uns et aux autres, ce moyen de la prière. N'importe où, en quelque lieu que vous soyez, dans le plus profond du ventre d'un grand poisson, n'importe où, vous aurez toujours la possibilité de prier le Seigneur. Même quand vous n'aurez plus de voix à l'intérieur de vous-même, vous pourrez toujours crier à l'Éternel. Et l'amertume, 1 Samuel. Alors qu'est-ce que j'ai dit ? 1 Samuel, chapitre 1er, verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa ses pleurs. Elle fit un vœu en disant : Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Elle ne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Jusque à quand seras-tu dans l'ivresse ? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux, et cette femme s'en alla. » Regardez ce qui est écrit après. « Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. » Amen. C'est là l'œuvre de restauration que Dieu opère dans une vie qui crie à lui, par désespoir, même sans une voix audible, dans son cœur, de crier à l'Éternel, dans cette souffrance inimaginable, puisque vous voyez un petit peu cet excès de douleur, toutes ces tensions qu'il peut y avoir dans l'intérieur de notre cœur, alors que peut-être ça ne se voit pas, on va se saluer tout à l'heure, mais qui sait les profondes souffrances, blessures que l'un ou l'autre peut traverser. Un dernier moyen aussi que Dieu utilise, alors quand je dis dernier, c'est, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, Dieu n'est pas limité par les moyens qu'il peut utiliser, mais je voulais souligner ce point aussi, c'est les soins pastoraux. L'Éternel, c'est ce bon berger. Devant la brebis qui saigne de partout, il ne va pas rester indifférent, bien au contraire. Il va la soigner, il va panser ses plaies. Et il est rempli de compassion pour elle. Vous savez, vous connaissez ce texte où Jésus a dit, il est dit ceci, « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante. Elle était abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. » Et cette œuvre de restauration que Christ a fait, a accompli dans son ministère terrestre, cette œuvre de restauration doit se poursuivre dans l'Église. Bien sûr, par tous les fidèles que Dieu peut utiliser pour cette œuvre de restauration, mais peut-être aussi en particulier par les anciens à qui Dieu demande spécifiquement de prendre soin des brebis. Je vous cite ce texte. « Prenez donc garde à vous-même, cela s'adresse aux anciens, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, évêque, pensez à surveillant, pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. » Voilà un des moyens, et c'est dommage, en tout cas ce n'était pas le sujet ce soir, mais c'est important de réaliser que les anciens dans l'Église ont été choisis par Dieu pour continuer cette œuvre de restauration, pour paître les brebis du Seigneur. Je vous ai cité Actes 20, 28. Je voudrais conclure juste, parce que si peut-être ce message ne nous interpellait pas personnellement, en tout cas, peut-être pas aujourd'hui, mais gardons-le dans notre cœur, parce que demain peut être un jour différent pour nous. C'est aussi un message qui peut nous servir pour être interpellés de la manière dont nous devons agir envers notre prochain, et peut-être en particulier envers notre frère et notre sœur. Que nous ayons beaucoup de compassion et que Dieu nous donne toute cette sagesse et toute cette sagesse en fait pour savoir comment nous comporter dans nos paroles, vous savez, dans nos attitudes. Des fois, nous, on est plus rapide finalement à blesser, vous savez, des fois en voulant bien faire, c'est pas cela que je veux dire. Mais parfois on peut très facilement occasionner des blessures, voire peut-être amplifier des fois des blessures qui sont là dans le cœur. Soyons honnêtes vis-à-vis de cela. Que Dieu nous donne non seulement ce regard rempli d'amour, cette compassion comme l'a eu ce Samaritain pour notre prochain, peut-être ce regard aussi pour toutes ces âmes qui autour de nous, et je ne parle pas forcément qu'à l'extérieur de l'Église, bien sûr, mais aussi à l'intérieur de l'Église, ces âmes languissantes qui ont besoin de vivre cette œuvre de restauration que Jésus-Christ veut leur donner. Je vous cite juste un texte. « Mes frères, s'il arrivait à quelqu'un par mégarde de faire un faux pas, si cédant à une impulsion soudaine, il tombait dans quelque faute et que vous veniez à le découvrir, agissez à son égard en homme spirituel. » Sous la conduite de l'Esprit, ramenez-le avec affection et douceur dans le droit chemin, en évitant tout sentiment de supériorité. Soyez vous-même sur vos gardes, de crainte d'être aussi induit en tentation. Aidez-vous mutuellement à porter vos fardeaux, supportez les fautes et les faiblesses des autres. De cette manière, vous accomplirez la loi du Christ. N'a-t-il pas lui-même porté nos fautes et nos faiblesses à la croix. Amen. Galates chapitre 6, versets 1 et 2, dans la transcription Parole vivante. Prions le Seigneur un instant, s'il vous plaît. Éternel notre Dieu, combien nous voulons te bénir et te remercier encore pour ta parole. Merci de nous l'avoir laissée. Et pardon pour toutes les fois où nous avons peut-être été négligents avec elle. Nous réalisons encore ce soir combien tu n'es pas limité par les moyens que tu mets sur nos vies pour restaurer notre âme. Nous réalisons encore ce soir que tu as payé le grand prix pour libérer notre âme, pour l'enlever, l'arracher de l'enfer éternel et combien nous voulons te bénir et te rendre grâce pour cela. Merci pour cette expérience bénie. Et peut-être nous te prions particulièrement pour quelqu'un qui, au milieu de nous ce soir, n'aurait pas encore expérimenté la libération de son âme par la purification du péché. Seigneur, par ton sang qui a coulé à la croix du calvaire, nous te prions peut-être pour une âme ce soir qui est encore en lutte, afin qu'elle puisse céder à l'appel de la croix. Mais nous te prions aussi pour chacune de nos vies, quel que soit le stade où nous en sommes, Seigneur, tout en te bénissant pour le chemin accompli, nous voulons te demander de nous garder les uns et les autres. Oui, Seigneur, tu nous l'as laissé comme un commandement de veiller attentivement à notre âme. Et nous voulons le faire, Seigneur. Nous ne voulons pas être négligents sur ces aspects-là. Seigneur, tu nous l'as rappelé encore ce soir. C'est vrai que dans le monde dans lequel nous vivons, malheureusement, il y a tant de situations qui peuvent nous blesser, tellement de situations qui peuvent affecter profondément notre âme. Seigneur, nous ne voulons pas nous perdre comme Lot a failli se perdre. Et nous ne voulons pas être sauvés comme in extremis. Mais nous voulons être mis au large, Éternel. Nous voulons que tu nous aides à être remplis de cette sagesse pour prendre soin de notre âme, de nous détourner chaque jour du mal, Seigneur, de lire ta parole, d'observer tes commandements, parce que c'est une source de vie, de bénédiction, afin que chacune de notre âme, oui, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, chacune de notre âme soit une âme contente et prospère en Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Amen.